Ça y est, Marc, salut les Smart et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Chaque semaine, nous analysons ensemble les shows de la WWE. C'est l'heure de résumer, d'analyser, de décortiquer le Monday Night Raw post Hell in a Cell. Nous sommes le 26 octobre 2020 et pour m'aider dans cette lourde tâche, j'ai avec moi Papi Chulo. Salut Papi.
Bonjour les enfants, bonjour Yann, bonjour le patron. Merci de m'accueillir.
Bah de rien, écoute, tu es toujours le bienvenu. J'ai écouté votre analyse du pay-per-view Hell in a Cell, un pay-per-view à triple vitesse.
Oui, c'est ça, qui a fini sur des petites lenteurs quand même.
Et puis sinon, tu piles et voilà, tout le monde passe à travers le pare-brise. Donc là, on avait bien ralenti. Est-ce que ce Monday Night Raw a remis tout le monde la voie d'accélération? C'est ce que nous allons voir ensemble, puisque Drew McIntyre, donc l'homme qui a perdu la veille, pas mal, ouvre le show pour finalement faire un petit bilan de sa nuit dans la cage infernale, sa première nuit.
Hein. En enfer.
Première nuit en enfer. Pour Drew McIntyre, il avait l'air de plutôt le vivre pas trop mal, ce Drew, cette grosse défaite, non?
Oui, voilà, il est plutôt souriant comme garçon. Hein.
Oui, je me suis fait piquer ma femme, ma maison, ma ceinture, tout, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, hein. De toute façon, il y a pire que ça, il y a le Covid, donc...
Ouais, exactement,
tant qu'on n'aura pas trouvé un vaccin, voilà. C'est ça qui est important, porter un masque.
Exactement. Voilà, écoutez.
Il l'a plutôt pas trop mal vécu, puisqu'il nous fait une petite passe à la Rocky Balboa. Quoi. Voilà, c'est ce qui est important, c'est comment on se relève après une défaite, finalement. Une fois que tu es à terre, qu'est-ce que tu fais?
Intéressant.
La musique du Miz retentit. Il arrive avec John Morrison pour un petit peu se la péter. Hein. Se la péter parce qu'il est de nouveau propriétaire de la mallette du contrat Money in the Bank qu'il a obtenu des mains huileuses et graisseuses d'Otis la veille. McIntyre le prévient tout de suite, fait très attention, là tu viens de me couper ma promo, c'est pas très sympa, pas de bonne humeur.
Pourtant il était souriant.
Finalement tout ça n'était qu'une façade, en fait il a les nerfs, il a la rage.
Boue à l'intérieur.
Le Miz dit « Ouais, écoute, ton règne là, c'était super impressionnant, et toutes les bonnes choses ont une fin. » Il nous rappelle, vous vous souvenez, la dernière fois que j'avais cette mallette, j'ai battu Randy Orton pour le titre à WWE, et c'était où? C'était ici, à Orlando, en Floride.
Tintintin.
Donc peut-être que je vais refaire la même chose cette année, j'en ai discuté avec ma femme, là, backstage, elle avait l'air plutôt d'accord.
Il avait fait le corps de sa femme, hein.
Et au bout d'un moment, l'Écossais, qu'est-ce qu'il a? Il en a marre, et quand un Écossais en a marre, qu'est-ce qu'il fait? Il met des coups de boule.
Bim.
Bim, boum, boum, bim dans le Miz qui se mange un gros coup de tête de la part de l'Écossais et John Morrison qui se fait envoyer valdinguer là, avec une souplesse à l'autre bout du ring. Drew McIntyre qui cette fois-ci est un petit peu remonté et tout ça se réglera un petit peu plus tard lors d'un match qui opposera le nouveau porteur de mallette à l'ancien champion de la WWE. Drew McIntyre, est-ce qu'il a l'air d'avoir bien géré cette défaite?
Ouais, il avait l'air bien rigolard, pas trop perturbé par cette défaite en plus où il avait souffert là. Il finissait la bouche en sang en crachant ses côtes par la bouche. Mais là, il avait l'air plutôt bien, ouais, tranquille. Mais effectivement, on sent qu'il a un petit truc comme à l'intérieur qui va pas. Il met des coups de boule à un pauvre Miz qui passait par là, qui redécouvre le main event après avoir été en low card pendant des mois, des années. Il est quoi? Bon voilà, les copains, m'oubliez pas. Tu es un ex-champion du monde aussi. Et puis voilà quoi. Donc, c'est typiquement le segment de post-pay-per-view où soit tu représentes le nouveau champion, soit en l'occurrence, tu représentes l'ancien champion, puis le nouveau porteur de la mallette. Ça fait un petit peu de pub quoi.
Il a plutôt pas mal géré cette grosse défaite. On verra plus tard, de toute façon, qu'on va explorer plusieurs pistes hein, pour les semaines et les mois à venir. Je sais que vous vous êtes posé la question lors du pay-per-view, l'analyse de pay-per-view avec Ringside, à savoir qu'est-ce qui attend, quel programme attend tout ce beau monde. Hein. Donc pour l'instant, on remélange un petit peu les cartes. Le prochain pay-per-view, c'est pas n'importe quel pay-per-view.
Eh oui.
Eh ouais, c'est les Survivor Series. Eh ouais, il fait partie du Big Four, comme tu le dis. Survivor Series, qui va donc opposer cette année seulement Raw à SmackDown. NXT n'est pas invité.
Et salut les tocards.
Si vous faites moins d'1m60, cette année, vous n'entrez pas.
Et restez chez vous avec vos baskets.
Pour se qualifier, pour être membre, voilà, il faut montrer patte blanche. Et pour montrer patte blanche, on a organisé un petit tournoi. Enfin, pas un petit tournoi, mais des petits matchs de qualification. Il y aura 3 matchs ce soir. donc trois places dans les équipes de, dans l'équipe de cinq qui défendra les couleurs du chou rouge. Et le premier match a opposé ben, deux mecs qui ne s'arrêtent pas de se croiser depuis, qui n'ont pas arrêté de se croiser là, déjà cette année, Jeff Hardy et AJ Styles. AJ Styles, donc, qui arrive avec toujours son garde du corps, hein, qui fait 2m30, là j'ai mesuré sur ma télé.
Long.
Petite promo pour dire qu'il va se qualifier parce qu'il devrait simplement être le capitaine. Est-ce que tu es d'accord avec lui ?
Pourquoi pas ouais. Bah, ça dépendra qui est dans l'équipe en fait. capitaine, ouais, parce qu'il a son garde du corps avec lui, donc comme il est garde du corps, il est un peu chef, et du coup, bah, c'est-à-dire qu'il mérite d'être capitaine, pourquoi pas. Allez, vas-y, on va lui dire oui à AJ. Vas-y, oui, t'as raison, gamin.
Bon, après quelques, voilà, quelques échanges entre les cordes, on a évidemment Jeff Hardy qui se retrouve face au garde du corps, puisqu'au moment où il saute, je crois, du turnbuckle, il se fait rattraper par le garde du corps, en fait, qui le tient, comme s'il allait lui faire un gros câlin, d'ailleurs.
Oui, c'est de l'amour, ça.
Du bel amour, mais quand il revient sur le ring, AJ Styles le cueille un petit peu plus tard avec un phénoménal forearm pour la victoire. Et après le match, eh bien, Jeff Hardy se bouffe carrément un coup de guitare par Elias. Donc, premier qualifié pour cette équipe de Monday Night Raw, le Phenomenal One, AJ Styles.
Et oui, bon, là, il y avait pas, entre guillemets, de mauvais choix, je pense, entre les deux, parce que Jeff Hardy et AJ Styles, c'est comme deux vétérans multititrés. Les deux auraient pu être dans l'équipe sans que ça me choque, personnellement.
Ah, et AJ Styles a un petit momentum là, avec son nouvel acolyte, là, son nouveau partenaire, son nouvel associé. Jeff Hardy a une petite feud visiblement non terminée avec Elias, donc effectivement, c'était deux bons choix. C'est bien AJ Styles qui a tiré son épingle du jeu.
Bravo AJ.
Petite interlude, j'en parlais en off, on a eu un 2v2 ce soir qui a opposé la Lucha House Party à Drew Gulak et Akira Tozawa. Un match totalement sans intérêt,
ouais,
qui a vu R-Truth débarquer puisqu'il est visiblement été à la recherche de Little Jimmy, qui avait des places des tickets ringside. R-Truth qui intervient dans le match puisqu'il balance Tozawa dans les barricades. Tout le monde essaye de faire le tomber sur R-Truth, mais personne n'y arrive. Dorado en profite un peu du bordel pour faire le tomber sur Drew Gulak qui remportait la victoire pendant que R-Truth se barre.
Et oui, et donc ils n'ont pas été disqualifiés, les Lucha House Party, malgré l'attaque sur Tozawa.
Ah ouais, ah bah oui.
Quitte à être nul, en plus, ça n'a pas de logique comme segment. C'est ça qui est bien, c'est que ça cumule les défauts.
Ouais, voilà, c'était assez lamentable, effectivement. Je pense qu'il n'y avait rien à garder dans tout ça.
Ce pauvre Drew dont on parlait hors antenne, qui passe de champion du monde à 24-7. Ah bah non, c'est pas le même.
C'est pas le même Drew. Il y a deux Drew.
Pas se tromper de Drew, hein. C'est toujours important.
Autre match de qualification, eh ben, j'en parlais juste avant, Elias. Mais Elias, pour se qualifier, il va falloir affronter une sacrée épreuve.
Une montagne.
La personne de Keith Lee. Elias nous fait une petite promo, hein, puisqu'il a sorti de son nouvel album que je n'ai toujours pas écouté. C'est assez honteux.
Ah, tu rates quelque chose, hein.
Ouais.
Bon, il est court, hein. Il y a que 4 chansons, je crois.
Mais il a tout donné. J'imagine qu'il a tout donné.
Ah, bah, c'est les 4, mais c'est 4 over the top, hein.
Ah, bah, il a déjà été dans les top charts, hein, catégorie bande originale de show télé catch, je crois. Il était second.
Catch, oui, c'est ça. Catch de la WWE. Vous voulez pas préciser.
Classé second.
D'ailleurs, on se gueule.
C'était un match assez disputé, étrangement. T'as pas trouvé ?
Oui, il a bien résisté. Bah, je pense qu'ils veulent pas le cracher tout de suite, le pauvre Elias, vu qu'il fait comme son retour. C'est de lui laisser quand même un petit espoir.
Ouais, il a notamment contré une powerbomb là, avec un Hurricane Rana. Gros coup de genou dans la tête à Keith Lee. Ouais, le match a duré, je sais pas combien de temps il a duré d'ailleurs. Assez longtemps. La musique de Jeff Hardy, distraction qui permet à Lee en plus de placer sa spirit bomb. Donc en plus, Keith Lee gagne, mais grâce à une distraction. Donc voilà, le soldat Elias est bien protégé, même s'il se prend quand même une grosse guitare. Dans le dos là, je crois que Jeff Hardy il s'est pas retenu parce que ça a bien claqué. Là.
Ah, mais en ce moment, ça pète des guitares de manière assez violente. Parce qu'ils en ont aussi pété la veille au pay-per-view, décidément. Ah oui, effectivement, donc j'ai retrouvé la durée du match pendant ce temps-là. Si ça se voyait pas, je meublais. Mais en fait, il dure 10 minutes le match. Donc effectivement, un long match pour un Elias versus Kisley. Hein.
Ouais, ça a duré aussi longtemps que Kisley versus Orton. On va comprendre.
Même plus longtemps, je pense.
Il faudrait qu'ils regardent un petit peu quand même ce qu'ils font, hein, WWE.
C'est quasiment le match le plus long de la soirée. Hein. Je ne vais pas révéler, mais pas loin.
Ouais, effectivement, il faut que ça se termine dans un guitar match. Ce serait pas mal, ça.
Guitar on the pole.
Comme ils avaient fait un match, non, avec Elias contre Braun Strowman. C'était avec plein d'instruments de musique.
Ah ouais, oui.
Tu te souviens de ça? Il y avait la contrebasse, le violoncelle.
Il n'y avait pas eu une powerbomb sur un piano, un truc comme ça à la
oui,
fin.
Oui.
C'était assez violent.
À un moment, ils ont fait un truc avec une flûte traversière, mais je me souviens plus très bien.
Ah non, ça c'était dans le dark, dark match.
Ah oui, c'était très très dark. Oui, je pense qu'il y a eu. Elias avait été hospitalisé pendant 2 mois suite à.
Ah bah, il est resté longtemps sur le côté, hein, du coup.
Ah ouais. Bon, voilà, donc deuxième membre de la team Raw, Kisley. Là, ça devient solide. Là, on commence à parler sérieux. Là.
Oui, en plus, de mémoire, parce que ça date un peu, c'était à l'époque où il y avait des gens encore dans le public, mais Kisley avait déjà fait une belle performance au Survivor Series avec l'équipe NXT l'an dernier.
Mm-hmm.
Donc, bah, c'est son retour dans l'équipe pro cette fois-ci. Bah, là, pour le coup, il y avait un peu moins de doutes, même si Elias c'est un petit push en ce moment. C'est quand même mieux d'avoir Kisley dans l'équipe qu'Elias. C'est surtout, comme tu le disais tout à l'heure, bah, lui, il a un programme qui l'attend avec Jeff Hardy. Donc voilà, les deux ont perdu, les deux vont pouvoir continuer leur programme. Et on a mis les autres personnes dans l'équipe. Et du coup, effectivement, c'est toute l'équipe.
Lord Business.
Ah,
toujours dans la place. Ah là là.
Baigne.
Tout ben pour Lord Business qui, on va dire, pour rajouter encore un peu plus à l'humiliation, nous annonce qu'ils ont réclamé un match contre Retribution et qu'ils l'ont obtenu. Donc en fait, Retribution, on se demande un petit peu ce qu'ils foutent encore, ce qu'ils viennent, pourquoi ils se déplacent, pourquoi les matins ils se lèvent en fait, pourquoi les mecs se lèvent chaque matin pour aller au taf.
Ils aiment se faire humilier soirée après soirée.
Bah, c'était un 4v4. Entre les membres de Hurt Business et les membres mâles de Retribution, même si vous allez voir la membre femelle.
Reckoning.
Ou Mia, parce que l'arbitre l'a appelé Mia pendant sa petite séquence.
C'est vraiment n'importe quoi.
Donc c'était un match par élimination, hein. Pour information. Lashley et T-Bar commencent, on se fout des grosses patates, hein. MVP rentre, Mace rentre, ça se fout sur la tronche. Slapjack, votre membre de Retribution préféré, en à son tour, et c'est là où Reckoning donc, commence à bouger son corps de façon un petit peu bizarre. Elle convulse, elle semble possédée, elle hurle qu'elle a des espèces d'insectes sur son corps, et Slapjack en profite pour éliminer MVP. Pendant cette distraction étrange qui a laissé même MVP était très perplexe.
Mais c'était un peu long en plus, hein, parce qu'elle a mis du temps à se rouler par terre. Hein.
C'est-à-dire qu'en fait, ça se passait dans un espèce d'angle mort de la caméra où tout d'un coup, tu la vois commencer à gigoter. Et puis, elle commence à se mettre des claques, à voir des trucs bizarres. Et après, effectivement, elle rentre sur le ring et puis elle gigote dans tous les sens. Et tu dis, mais attends, elle est en train de faire un AVC là pour de vrai, toi. Genre, qu'est-ce qui se passe?
Il y a un vrai problème, quoi. Une crise épileptique.
Et surtout qu'il y a les mecs, qu'est-ce qu'ils font? Ils balancent la pub juste après ça. Ils ont balancé la pub.
Alors qu'elle est par terre.
Alors qu'elle est par terre en train de mourir. Et quand on revient de la pub, bah en fait, tout va bien. Tout va bien, et il se révèle que c'était un coup monté. Un coup monté pour distraire le pauvre MVP, et que ça a marché. C'était ridicule, mais ça a marché. Du coup, Lashley n'est pas content, il a éliminé Slapjack avec un gros spear. T-Bar qui prend le relais. Les deux mecs qui visiblement se détestent, c'est devenu une affaire personnelle, finissent par se foutre sur la tronche dans ce qu'on appelait avant les gradins. Mais ce n'est plus des gradins maintenant, donc ils sont éliminés par des comptes à l'extérieur. C'est Mace qui prend le relais face à Cedric Alexander, mais il se fait éliminer par Shelton Benjamin. Donc, Shelton Benjamin qui s'offre un gros morceau lui aussi là. Et Ali bah, qui se retrouve tout seul, et comme c'est un méchant, bah, c'est un couard et il a peur, il est faible et il finit par attaquer Cedric Alexander avec une chaise, causant ainsi la 5e défaite d'affilée de Retribution qui donc pointe un beau 0-5.
Bravo Retribution, vous êtes vraiment des méga champions. C'est quand même le top. Chaque semaine, chaque soirée, ils décident de se faire humilier d'une nouvelle façon. Là, effectivement, je passe sur les deux gros qui s'auto-éliminent comme à chaque fois qu'il y a deux gros dans un match à élimination en se battant loin du ring parce que Ouais, ils ont un problème psychologique de toute façon. Dès que t'es gros, là, d'où aller en dehors du ring.
Taper.
Éloigner ring. Oh, il compte. Alors, ce qui est bien, c'est qu'en plus, il compte. Avant, je crois qu'il est à 7 ou 8. Blaireau Retribution, la T-Bar, ou je ne sais plus lequel des Blaireaux, qui est de l'autre côté d'une barricade. T'as Lashley, donc qui est à côté du ring. Donc, il a remonté 2 secondes et terminé le match. Et ben non, il a 8, il va passer comme de l'autre côté de la barricade parce que oh, moi tapé, moi trop con. Donc voilà, donc il s'élimine comme ça, Lashley. Genius, bravo. Et puis bon, enfin, sinon après 14 minutes 42 matchs, hein, du coup le temps d'éliminer tous ces braves gars et puis de soigner la pauvre Mia Reckoning.
Oui, parce que l'arbitre l'appelait Mia quoi. Mia, ça va? Comment tu vas, Mia?
Mia. Mais non, je suis Reckoning, connard.
Et con quoi?
C'est con. Oh là 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 là. Il n'y a que Slapjack qu'on retient. Hein. C'est plus facile quand même. Hein, parce qu'en plus, on ne connaît pas son vrai nom. Hein, donc lui, on peut l'appeler Slapjack sans souci. Quoi.
Ouais, on s'en fout de vraiment qui il est. C'est, en tout cas, c'est lui qui a les matchs. C'est lui qui a le masque de Tout le monde se moque. Et finalement, c'est le seul qu'on va retenir à la fin. Et tu vas voir qu'il va réussir à se trouver un spot dans un Money in the Bank match. Et c'est qu'un t'es.
Voilà. Et Slapjack!
Ah, je pense qu'au final, c'est lui qui va réussir. Il y a toujours un mec qui tire son épingle du jeu, et pour l'instant, je mise sur Slapjack.
Ah, parce que c'est pas Mace qui a réussi à se faire battre par Shelton Benjamin et Cedric Alexander qui va aller loin, ce garçon.
Il
hein.
n'y a rien qui va.
Je me suis dit, ah, il est gros, il va peut-être. Ça y est, Ali, il a gardé un gros malaise avec lui, il va peut-être pouvoir s'imposer face aux deux. Non. Mace, il s'est fait éliminer. Au revoir.
Dans les mecs, ils perdent un match et 30 minutes plus tard, bon les gars, rassemblement dans la cave.
Réunion
de crise. Faire une promo pour dire qu'on n'est pas content et que nous, on inflige de la douleur aux autres et c'est comme ça qu'on gagne et que on va vous faire taire une bonne fois pour toutes.
Oui, là, c'est ça. C'est très tendu hein, de dire ouais, mais nous, nos victoires, c'est pas dans les matchs qu'on les a, c'est en foutant la crainte aux autres. Ah, bah non, là, ils nous font marrer. Hein. Donc, même cette victoire-là, vous l'avez pas.
Écoute, on va passer à quelque chose d'un peu plus sérieux quand même.
Oui.
Notre match entre le Miz et Drew McIntyre, qui donc a eu lieu dès ce soir. Alors évidemment, le Miz n'est pas seul, donc il est aidé par son acolyte John Morrison. Alors, qui fait vraiment l'idiot là. Je pense qu'ils ont enclenché le mode vraiment idiot, tête à claque.
Débile profond.
Drew McIntyre prend malgré tout contrôle. Je sais plus si John Morrison ne se fait pas...
On voyait pas exclure, par non
ouais,
peut-être exclure,
ouais. Ah ouais, moi je l'aurais exclu.
Peut-être la veille au soir. C'est peut-être c'est aussi qui s'était fait exclure. Donc
ah bah moi je l'aurais exclu. Ouais, non, effectivement, il s'est peut-être pas fait exclure. Moi je l'aurais exclu, hein, quand même. Attends.
Attends. Never go full retard, John Morrison.
Bon, le Miz qui attaque Drew McIntyre sur son genou blessé, mais voilà, Drew McIntyre tient bon, et il commence à mettre des grosses belly-to-belly sous place. Morrison est éjecté du ring et il place donc sa grosse claymore. Victoire de Drew McIntyre et le Miz qui est parti pour perdre tous ses matchs jusqu'à ce que son cash-in.
Ben oui, voilà, comme un détenteur de mallette. C'est un loser, mais bon. Par contre, c'était... Alors attends, je retrouve la durée. Ça a quand même été assez vite, mine de rien.
Ouais.
Ça a duré 4 minutes 15. Donc, il l'a quand même bien torché, la Midrou. Il faudra quand même qu'il perde de manière un peu plus valeureuse les prochaines fois, le Miz. Hein. Là, ce live est vraiment. Il part vraiment de loin.
Ouais, surtout qu'il n'est pas tout seul. Il a son John Morrison. Bon, alors, après, il était face à Drew McIntyre. Donc, tu veux aussi refiler une bonne victoire expéditive à Drew McIntyre. Donc.
Mais il a une mallette pour cacher sur le titre de champion du monde. Donc, quelque part, il est censé se battre contre ce genre de bonhomme, l'ami Miz.
Bah écoute, je ne sais pas quel était son plan.
On ne le saura jamais.
Ce soir, il a perdu. Ça, c'est tout ce qu'on tiendra. La défaite du Miz. Allez, si tu veux, je vais te redonner le sourire.
Ah, j'espère.
Viens avec moi, donne-moi la main. Je t'emmène dans la division féminine.
Wouh ! Mais c'est
alors,
super.
N'aie pas peur. Si tu as l'impression qu'il n'y a pas grand monde... Et qu'on s'y fait chier, c'est normal, parce qu'il n'y a pas grand monde et qu'on s'y fait chier.
Ah, je me disais aussi.
Mais malgré tout, on essaye quand même de construire une équipe pour les Survivor Series, parce que malgré tout le mal qu'on dit de la division féminine à l'heure actuelle, ils continuent de vouloir nous proposer des affrontements, en l'occurrence une équipe féminine de Raw contre une équipe féminine de SmackDown. Est-ce qu'on n'aurait tout simplement pas dû annuler ce match, finalement?
Eh ben, je n'aurais pas dit ça comme ça, mais quand je vais voir l'équipe féminine construite, je pense que la question se posera.
Ouais, bah on va mettre ça à l'ordre du jour, hein, la prochaine réunion, parce qu'effectivement, il y a du monde quand même. Il y a du monde. Il y a des catcheuses avec du potentiel, dans ces divisions. Mais vous verrez, c'est pas forcément sur elles qu'on a misé pour aller défendre les couleurs du show au Survivor Series. Alors on a une petite promo backstage, je crois, au début, avec Baszler et Nia Jax qui se disputent gentiment pour savoir qui va être la chef, parce qu'ils font un leader dans chaque équipe, un capitaine.
Bye.
Donc je crois qu'elle chope Adam Pearce dans un coin, elle dit hey, « Adam, vas-y, s'il te plaît, fais de moi, voilà, je vais être la capitaine. » Est-ce que c'est là aussi qu'on voit Garcia ?
Garza. Ah, peut-être, ouais, qui...
Qui est en train de draguer.
Non, c'est après. Je pense que c'est après. Là, elle donne juste leur liste.
Et
c'est
après chacune a sa liste.
Et c'est après, dans le segment où elle retrouve Mandy Rose et Dana Brooke, que Garza arrive.
Ouais, elle les retrouve un petit peu plus tard. Et puis, Garza était en train de draguer tout ce qui bouge. D'ailleurs, Nia Jax n'avait pas l'air insensible au charme du garçon.
Et oui, ce qui a énervé Shayna Baszler, qui dit « Non, mais quand même pas Garza, quoi !»
Garza, attends. Il est beau gosse, il a la moustache.
Tu mérites mieux.
Quand même pas. Et Nia Jax fait « Pourquoi pas ?»
Bon, je prends. Hein.
Ouais, je le vois bien, même si ce serait sympa. Faites une petite romance entre Nia Jax et Garza.
Il n'y a plus que ça pour Garza, en plus, malheureusement.
Effectivement, t'as raison, il n'y a plus que ça. Oh, le con, il n'y a plus rien.
Oh, c'est triste.
Du coup, on a organisé un Fatal 4-Way pour déterminer qui sera le cinquième membre qui ira rejoindre. Donc, du coup, Shayna Baszler, Nia Jax et l'annonce a été faite Mandy Rose et Dana Brooke. Annonce qui a été faite par, accrochez-vous bien, Adam Pearce et Pat Burke.
Mais ouais, Rookmoot, on l'appelle.
Le mec s'appelle Pat Burke.
C'est possible, en tout cas, il porte bien son nom.
Qui est ce mec, quoi ? C'est vrai que c'est un des mecs qu'on voyait tout le temps dès qu'il faut des officiels pour séparer des mecs qui se mettent sur la tronche. Là,
il s'était fait tabasser par Nia Jax aussi, je crois, à une époque. C'était lui qu'elle tapait souvent.
Ah, il y a donc un passif entre ces gens.
N'est-ce pas ?
Je vois. Donc, visiblement, hein, Baszler, Jax, ça, à la limite, tu comprends, elles sont championnes. Ok, elles ont un ticket.
Oui, c'est un bon choix. Ça, c'est un bon choix, les deux.
Mandy Rose, Dana Brooke, ils l'ont justifié, ça, la qualification par défaut de Rose et Brooks dans l'équipe ?
Non, c'est... Bah, ils ont tenu compte de je sais pas quoi et de je sais plus qui. Et puis voilà, posez pas la question, elles sont qualifiées d'office.
D'accord, bon, ils avaient une équation qu'ils ont résolue et ça a donné Rose et Brooks dans l'équipe. Okay. C'est Batista qui a donné un petit coup de fil peut-être avant ?
Peut-être, ouais, parce que du coup, on voit les membres du Fatal 4-Way, on se dit qu'il y en a peut-être deux autres qui auraient mérité d'être plus à la place que ces deux-là, mais bon.
Les quatre, justement, dont tu as parlé, donc, que tu mentionnes, c'est Lana, Peyton Royce, Nikki Cross et Lacey Evans. Nikki Cross, nouveau theme song.
Oui.
De merde.
Bah, comme tous les nouveaux theme songs.
Oui, c'est vrai, t'as raison. C'est vrai. Ils ont tout ce point commun d'être des nouveaux theme songs de merde. C'est bien Lana, la fin, et oui, qui en profite et qui fait un tombé sur Lacey Evans pour aller choper son titre, sa place, pardon, dans l'équipe des Survivor Series. Tout le monde l'applaudit, plus ou moins. Et c'est surtout Nia Jax qui a l'air ravie de cette addition à l'équipe. Elle lui offre même un gros câlin qu'elle ne veut pas lâcher. Et voilà, le piège se referme sur la pauvre Lana qui va se bouffer la table des commentateurs pour la sixième ou septième semaine de suite. Bienvenue dans l'équipe.
Oui, et elle reste dans l'équipe quand même. Hein. Donc,
Ah oui.
Ils vont à fond, de toute façon. Et alors, je me suis demandé avant s'ils n'avaient pas la nommée capitaine aussi. Alors, ça aurait été...
Il faut qu'elle soit capitaine. Il faut que Lana soit capitaine si elle ne l'a pas déjà été.
Ah oui, comme ça, elle pourra donner des ordres à Nia Jax et puis se faire péter la tronche. Ou alors, peut-être que justement, elle arrêtera. Pense, est-ce que ça va arrêter Nia Jax ?
Je ne sais pas.
On verra. Mais bon, en tout cas, elles avaient bien l'air dégoûtées, les filles. Tant que Lana était dans le ring, après, elles ont fait des grands sourires en disant « Ah, bienvenue, ma copine !» Mais alors, par contre, au moment du tombé, c'était plus « Oh putain, on a récupéré la bière !» Mais bon, on les comprend.
Petit segment backstage pour la division tag team. Les New Day qui se sont fait passer pour les Street Profits. Ils ont fait, j'ai trouvé une belle imitation des Street Profits. Hein. Ils étaient à fond, là, Xavier Woods et Kofi Kingston.
Oui.
Ils ont été rejoints par Asuka. Ils sont voilà, avec les Street Profits qui ont débarqué. Et Asuka était complètement tarée. Elle disait qu'elle voulait la fumer.
C'est ça.
Elle veut la fumer, Asuka.
Et voilà, elle veut. Voilà, elles étaient en pleine imitation de leur compère de l'autre côté, de l'autre roster.
Ils ont annoncé via un petit écran télévisé, ils ont annoncé, mine de rien, les matchs officiels qui allaient, donc les fameux matchs champion contre champion. Alors à chaque fois, je vais faire la liste, puis tu vas me dire si ça te fait kiffer ou pas. Okay, le New Day va affronter le Street Profits.
Ça c'est bien, ça fait kiffer. Hein.
Asuka affrontera Sasha Banks.
Ouh, alors c'est dommage qu'on l'ait vu récemment. Ça fait très kiffer aussi. Hein.
On en redemande.
Ah bah oui, là c'est un peu les deux têtes d'affiche avec Bayley, c'est deux des trois têtes d'affiche actuelles du circuit féminin, j'ai envie de dire de la planète.
Ah carrément, la planète.
Ah bah j'imagine même pas qu'il y ait mieux qu'existe sur cette planète.
Puis Asuka doit être contente parce que finalement, grâce au Survivor Series, elle peut affronter enfin des catcheuses intéressantes. Quoi.
Et ça va la changer de Lana, Zelina Vega et autres, Charlie Caruso.
Ah, je n'ai pas vu ce match.
Ah non, désolé, mais c'est pour bientôt.
C'est privé ? D'accord.
C'est soirée privée.
C'est tonton qui t'a donné la cassette.
C'est soirée privée chez tonton, il fait des petites soirées privées. Asuka et Charlie Caruso font du catch ensemble chez tonton.
D'accord, bah c'est ce soir ou jamais, hein, parce qu'à partir de demain, vous ne pourrez plus aller chez tonton. Il faudra une dérogation. Petite attestation.
Ou alors ils y resteront.
Ah oui, effectivement, bien vu. Et le troisième match, évidemment, c'est Randy Orton qui va affronter le chef tribal Roman Reigns.
Ouh, oui, c'est pareil. Là, ça... Alors, il contre il, c'est surprenant comme choix.
Ah, de toute façon, il n'y a aucune opposition de positionnement, en fait, hein, puisque New Day Profit, des gentils contre des gentils.
Ah oui, tu as raison.
Asuka, Sasha Banks, une gentille contre une gentille. Randy Orton, Roman Reigns, un gros méchant contre un gros méchant.
Comme ça, ben, c'est, il a la petite étoile qui n'a pas été mise, mais qui existe, de affiche susceptible d'être modifiée d'ici là, si jamais on décide de faire changer les ceintures entre-temps.
Tu veux dire qu'on n'aura pas notre Jinder Mahal versus Brock Lesnar ?
Par exemple.
Ils vont pas nous faire le coup deux fois, mince.
Oh non ! Ou alors peut-être que Jinder Mahal va remplacer Randy Orton. Ah ah !
Bah écoute, ce serait pas mal, puisque Randy Orton n'a jamais vaincu Jinder Mahal.
Et voilà, tac. Et...
Oh.
Ça, c'est un bon plan, ça.
Troisième match pour qualifier, de qualification du côté des hommes, Matt Riddle affronté Sheamus. L'Irlandais est en feu. Il est roux, il est costaud, il en a marre, il veut se bagarrer, il transpire, il nous propose des matchs de ouf, et ce soir, il aura proposé un match énorme contre Matt Riddle, où je pense qu'il a tout simplement détruit hein, le corps de Matt Riddle. Il l'a envoyé valdinguer dans tous les sens, il lui a mis des gros coups de coude, des gros coups de genoux, des gros coups de botte sur le chouchou de la scène indépendante, l'ancien champion de MMA. Il en a pris plein la tronche, et Sheamus a fini par placer un énorme broke kick à ce fieffet personnage qui est Matt Riddle. Et bah écoute, il est reparti, il a remis ses claquettes et il est rentré au vestiaire, Matt Riddle. Fin de l'histoire.
Vas-y, rentre chez toi avec tes claquettes et ton short et ta casquette là, il va te couper les cheveux. C'est quoi ce bordel ? Mais en tout cas...
Tu me feras le plaisir de soigner cette mauvaise peau ?
Voilà, non mais franchement, il fait aucun effort, Matt Riddle, donc bah, c'est bien, il prend sa branlée, une belle branlée là, une branlée de 13 minutes, donc de la bonne grosse branlée là, qui tape bien, qui laisse bien des marques. Pour le coup, c'est pour moi le choix complètement logique. Ça aurait été une grosse erreur de foutre Matt Riddle dans les Survivor Series, parce que de toute façon, il n'aura pas eu sa place, donc il aura juste fait un passage transparent. Et moi, je pense que, c'est bien pour lui de progresser lentement et de faire des gros matchs contre des gros sets d'affiches. Qui n'a pas les gagner tout de suite, c'est formateur pour lui. Quoi. On en a parlé longuement avec notamment Ringside sur de Discord, que je vous invite tous à venir voir. Et voilà, les petits gars d'NXT, hormis certains très rares qui ont tout de suite un niveau de mégastar, les autres, il faut quand même leur laisser le temps de s'imposer. Et donc, ce genre de match, qui est finalement un peu le main event de catchesque de Raw, c'est une très bonne chose pour eux, et même s'il perd, bah, au moins il est valeureux, au moins il a pu développer pas mal son catch, chose pour lui.
Ouais, c'était un match très technique, d'ailleurs Sheamus nous a offert un arsenal très technique justement, avec des petites prises de soumission à droite à gauche pendant ce match, avant de passer aux choses sérieuses, avant de donner des gros coups dans la tronche, parce que finalement c'est ce qu'il fait le mieux. Mais c'est vrai que c'était un match... presque limite hors sujet, tellement il était bon par rapport à cet épisode qui était un petit peu étrange. Sheamus, là, ouais, moi ça me fait bien kiffer Sheamus et je suis bien content qu'il rejoigne cette équipe et j'espère vraiment qu'ils vont là, il y a un potentiel pour remonter direction de main event, même si c'est déjà pas mal occupé, qui est assez, au moins tout en haut de la carte, là, pour Sheamus, il y a de la place pour lui, là.
C'est le genre de mec, là, ça rappelle un peu les Survivor Series d'il y a peut-être 5-10 ans, où tu avais tout, quand on te mettait un Edge, quand on te mettait un Jericho, des mecs comme ça, tu sais, qui n'étaient pas forcément au main event tout le reste de l'année, mais puis là, d'un coup, tu les mets, puis tu sais que de toute façon, ils vont se faire une belle performance. Que ce sera, enfin, si tu reviens de le voir, et puis tu te dis, bah, ça peut lui pas de déboucher sur autre chose derrière. C'est des gars, dès que tu les ressors et que tu les mets un petit peu en valeur, bah, directement, tu te vois les sommets parce qu'ils sont, bah, ils ont tout, quoi. Donc, ouais, je suis très content aussi que ce soit chez Mute qui rejoigne l'équipe.
Un nouvel épisode un peu spécial de la Firefly Funhouse.
Oui.
Et ouais, qui était très, 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 très intéressant puisque c'était l'heure du thé, hein, si j'ai bien compris.
Oui, c'est ça, c'est un peu à la façon...
Alice au Pays des Merveilles. Ouais, Bray Wyatt était en chapelier fou, avec des lentilles de couleur et puis un chapeau burlesque. Alexa Bliss était là aussi, toute sourire. T'as l'impression qu'elle est là depuis des mois, hein, dans la Firefly Funhouse, tellement elle est à l'aise.
Parfaitement intégrée.
On parle de Randy Orton, puisque Randy Orton est l'invité de A Moment of Bliss, donc l'émission phare d'Alexa Bliss, donc qui est au four et au moulin. Et il est fait mention lors de cet épisode de la Firefly Funhouse que la vipère Randy Orton a brûlé la maison de Bray Wyatt, sa cabane dans les bois.
Ouais.
On fait une petite pique et là on voit que Bray Wyatt il fait la gueule. Il fait la gueule. Petite peinture, une aquarelle de feu, la maison de Bray Wyatt, là où était enterrée aussi sa sœur. C'était assez horrible, je me souviens. Ce qu'avait fait Randy Orton quand même à l'époque, les gens oublient vite, mais. Il avait quand même déterré le cadavre de sa sœur. Hein.
Salopard de Randy.
Donc c'était pas cool. Il avait brûlé. Il avait brûlé le cadavre aussi. Donc c'était assez horrible. Bref, un petit peu plus tard, Alexa Bliss reçoit donc le tueur de légende, Randy Orton, dans son show A Moment of Bliss. Elle lui pose quelques questions basiques. Comment ça va et tout. Alors lui, il est pas très à l'aise. Il veut pas s'asseoir.
Il est méfiant.
Il dit qu'il a pas peur, mais il est méfiant. Moi, je suis taré, et il y a aussi d'autres tarés à WWE, et Bray Wyatt, The Fiend, c'est un taré, j'en suis sûr. Donc, il a plutôt bien joué, regardez toujours à gauche, à droite. Et il lui dit, bah écoute, Alexa, ou Bliss, même, il l'appelle Bliss, je trouve ça trop cool. Franchement, c'était une surprise pour moi, vas-y, enfin, va pas me la faire, quoi. Alors, elle refait une petite référence à la fameuse cabane qui a été brûlée, donc clairement, on sent... Randy Orton sent le piège arriver. Donc il dit, écoute, dis-moi juste où il est. Il est où le film là? Vas-y, dis-moi, il est où? Je vais le chercher. Et au moment où Alexa Bliss commence à sourire et à rigoler de façon un peu tarée, là, comme une maniaque, c'est la musique de Drew McIntyre qui retentit. Qu'est-ce qui se passe? Alors, Drew McIntyre, qui lui aussi au four au moulin, il y a beaucoup de monde dans ce moulin. Il débarque, grosse baston. Alexa Bliss, elle, entre-temps, elle est montée sur Turnbuckle, elle rigole de voir ses deux Golgoths se mettre sur la tronche, elle a réussi son coup, elle est trop contente. Les musiques s'arrêtent, et quand la lumière revient, Alexa Bliss a disparu. Drew McIntyre est tout seul dans la lumière rouge, entre les cordes. Randy Orton est sur la rampe, il recule pour fuir, et il s'arrête parce qu'il sent quelque chose. Derrière lui, effectivement, The Fiend se tient droit, prêt à l'attendre, prêt à l'attaquer. Et Randy Orton a un choix à faire à ce moment-là. Soit il recule et il tombe dans le piège de The Fiend, soit il avance et il affronte Drew McIntyre qui l'attend juste en face de lui. Randy Orton, il est fou mais pas trop, il choisit Drew McIntyre et la bagarre continue. Clap final.
Et oui, clap final. C'est fort bien raconté là. Tu vois, j'étais en train de m'imaginer la scène en buvant tes paroles. Effectivement, c'était... Alors moi, j'étais... j'avais complètement oublié en fait, tu vois, comme quoi le film n'oublie pas. Moi, j'avais oublié l'histoire de la maison brûlée, et c'est vrai que quand Orton a pris la ceinture, j'avais complètement zappé que bah, du coup, ils se retrouvaient dans le main event avec le film et que bah, ils avaient un sacré passif entre Wyatt et,
oh, oui.
et Orton. Donc, bah, d'un coup, là, rien qu'en voyant le rappel de la maison, j'ai tout qui va revenir de la cour en disant ah ouais, mais oui, ils vont pouvoir faire ça, et surtout qu'en plus, Wyatt. Le personnage du film, c'est quand même le mec qui, on va dire, répare un peu ses souvenirs, ses mauvais souvenirs. Mmh. Et donc, Orton, il est tout à fait placé pour être une de ses prochaines victimes, quoi. Et,
oui.
Et là, le segment final avec Orton qui se retrouve piégé, finalement, entre par ses actes passés. Il se retrouve piégé entre l'homme qui l'a spoilé récemment, Drew McIntyre, et puis l'homme qui l'a trahi il y a quelques années, Bray Wyatt. Et puis il est entre deux feux. Il choisit celui qui lui semble le moins dangereux, donc Drew McIntyre. Déjà, quand tu te dis que le moins dangereux, c'est Drew McIntyre, c'est que t'es vraiment dans la merde. Hein.
Eh, heureusement qu'on n'a pas ce genre de choix à faire, nous, dans la vie. Hein.
Non, ouais, heureusement, sinon, là, fou.
Bah, ouais, moi, je pense que je me mets par terre en boule, puis je pleure.
Je m'allonge par terre et je fais le mort. Mais bon, il a choisi ce Drew-là, et du coup, bah, il s'est jeté dans la gueule du Drew.
Ah, oh! Oh oui, je note. Ouais, et je me l'approprie.
Ouais, c'est venu tout seul, là. Et en tout cas, voilà. Donc, ce final d'Euro, tu vois, je le sentais pas venir comme ça, mais du coup, il m'a pas mal hypé en disant Ah, oh putain, ils ont 12 000 choses à faire derrière, ça peut être marrant.
Là, t'as un programme jusqu'à Mania et plus, hein, qui est présenté à nous, tu vois, entre ce qui s'est passé dans l'opener avec le Miz. Et là, ce qui se passe avec Drew McIntyre et The Fiend, Randy Orton, il est mal. Il est pris entre, non pas deux, mais trois feux.
Et peut-être un jour quatre si Edge guérit. Donc, là, il a...
Mais bien sûr.
Donc il a vraiment tout contre lui, Orton. S'il résiste à ça, franchement, ça sera Monsieur Orton. Hein.
Ah bah oui, il faudra l'appeler Monsieur. Et puis Hall of Fame direct. Hein. Hall of Fame direct.
Ah ouais, voilà, on arrête les frais. D'ailleurs, ça sera le dernier Hall of Fame. Il n'y aura plus que Randy Orton et ce sera terminé. Quoi.
Je crois même qu'il n'y aura plus de Raw, il n'y aura plus rien. On arrête le catch.
Oui, exactement.
Hein, on arrête le catch. Non, c'était super, j'ai adoré. C'était d'une finesse assez inhabituelle, on va dire, dans tout le marasme de ces dernières semaines, en termes d'écriture et de mise en scène. J'ai trouvé ça très bien. C'était vraiment, voilà, une. Pas une allégorie, mais visuellement, représenter un petit peu tous les enjeux et toutes les histoires possibles qui nous attendent autour de Randy Orton. Qui polarise un petit peu, voilà, à la fois Drew McIntyre, The Fiend, le Miz, en fait, c'est le passé, le présent et le futur. Le passé, c'est The Fiend. Le présent, c'est Drew McIntyre. Et le futur, c'est peut-être The Miz.
Tout à fait. C'est vrai que c'est bien vu comme ça. Qui aussi aussi un rappel du passé, le Miz, avec Orton.
En qui en plus, oh là là, la boucle temporelle, là, c'est. Il est mal, ça il est mal. Ouais.
Pauvre Andy.
Allez, c'est l'heure du mot de la fin. Si tu veux bien, mon bon papy, nous partager pour cet épisode post-Hell in a Cell de Monday Night Raw ce que tu considérerais être ton top, ton flop et ta note, s'il te plaît.
Pour le top, j'hésite grandement du coup entre ce segment dont on vient de parler, donc les malheurs de Randy et le Sheamus Matt Riddle qui était juste avant, qui était un très bon match.
Bah, prends Sheamus parce que moi je vais prendre l'autre.
D'accord, bah dans ce cas-là, de manière totalement autonome, je vais prendre Sheamus versus Matt Riddle.
Oh.
C'était un très, très bon match. Et déjà, un match qualificatif. Moi, je fais partie des gens qui sont plutôt amateurs de ce genre de choses. Comme je le dis souvent, quand tu mets une stipulation, quand tu mets un contexte particulier à un show, autant s'en servir. Voilà, je vais réussir à le dire. Et là, sur avant-série, tu as une équipe à construire. Bah, du coup, tu mets en scène la construction de l'équipe. Donc voilà, donc mon top pour ça. Mon flop, j'hésite à le donner aux filles, mais quelque part, elles mettent en scène aussi la construction de l'équipe. Donc je vais les épargner là-dessus. Allez, on va le donner au 24-7 tout pourri là. Pff, c'est nul. Non, attends, il reste Retribution. Non, excuse-moi. Retribution, je les ai oubliés. Ils sont tellement mauvais que je les oublie. Non, Retribution.
Ils méritent même pas d'être dans le flop en fait.
Voilà, c'est ça, non, mais la crise épilepsie et tout, là, les bandes de nuls. Retribution, pour moi, je leur donne une fois par semaine, là, je les ai parlé, les nocelles, là, pour ce soir, c'est pour leur gueule. Et du coup, ma note, je suis partagé, parce que, comme tu l'as si bien décrit, c'était quand même bien mou du genou, là, pendant deux heures et demie, et avec une très bonne dernière demi-heure. Donc du coup, ça te fait que tu finis sur un passage bon, donc j'ai envie de remonter la note. Allez, je vais mettre un 2,75. Allez.
Ah, très bien, il s'en tire à bon compte. Hein.
Oui, c'était pas gagné au début. Hein.
Alors moi, mon top, de façon totalement autonome également, je le donne à ce main event, cette clôture de l'épisode, hein, ce gros segment, on vient juste d'en parler, c'était un vrai plaisir, du petit lait. Mon flop, je vais être un petit peu dur. Je vais le donner à l'opener, justement. Je trouvais que Drew McIntyre était pas très en forme dans cet opener. Il était beaucoup plus à l'aise dans l'exercice final. Je trouvais qu'il paraissait un petit peu, il était un petit peu en dedans, quoi. Face à le Miz, il a un petit peu laissé le Miz. En face de lui, il y avait quand même un gros talker et ça a mis en avant un petit peu, je trouve, voilà, qu'il y a encore un peu du chemin à faire là, pour Drew McIntyre, notamment au micro. Quoi, il est tout seul face à la caméra comme il l'a été pendant 2 mois, ça marche vraiment bien. Quand il est face à un mec comme The Miz, c'est un petit peu plus difficile. Un petit flop, mais bon, c'est histoire de le. Voilà.
C'est un flop d'encouragement.
Et ma note, eh bien, écoute, moi, c'est un 3 sur 5. J'ai beaucoup aimé cet épisode, voilà, qui a été malheureusement tiré en longueur, comme tu l'as décrit, mais on n'a pas perdu de temps sur la construction du pay-per-view, contrairement à la construction d'Hell in a Cell. On n'a pas perdu de temps et on nous a offert plein de possibilités. On nous a montré l'étendue des possibilités pour le titre le plus important de la WWE côté Monday Night Raw. Donc, c'était un bon épisode. Alors, on est parti sur des bonnes bases, là, tout simplement.
Ouais, alors, j'ai une petite chose que je sais plus quand est-ce que ça arrivait pendant le show, mais il y a eu un petit encart à un moment. Ils ont aussi annoncé qu'il y aura un Lashley versus Zayn, titre US contre titre intercontinental à Survivor Series. Je sais plus quand est-ce qu'il a. C'est MVP qui l'a annoncé lui-même à un moment dans le.
J'allais dire sur MVP, le mec.
le mec a dit, il passe tout. Ah oui, quoi. Au fait, vous inquiétez pas, il y aura un match aussi. Hein. D'accord. Donc, il l'a annoncé à un moment. Je sais plus te dire quand, mais je sais qu'MVP l'a annoncé.
Et bon, bah voilà, tous les matchs sont donc déjà. Tous les matchs champions contre champions sont déjà annoncés. Donc, bon, c'est pas le plus difficile à booker en même temps.
Non, c'est même attendu.
Catch up, hein, évidemment, c'est votre podcast qui résume et analyse tous les shows de la WWE. Vous nous retrouvez évidemment sur toutes les plateformes audio, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, PodCloud. Et également sur YouTube, n'hésitez pas à mettre en commentaire votre top, votre flop et votre note. Le lien pour Discord est dans la description de l'épisode. N'hésitez pas à nous rejoindre. Partagez, écoutez, dites-nous ce que vous avez pensé, encouragez-nous, mettez-nous des pouces, des cœurs sur les réseaux sociaux, c'est Catchup CDC, Twitter, Facebook et Instagram. Papi Chulo, je te remercie encore d'être venu pour discuter de ce Monday Night Raw avec moi.
Gracias, el patron IRM. Merci pour l'invitation.
C'est toujours un plaisir.
Ah, si, el plaisir.
Plaisir, el plaisiro.
Plaisiro.
On se donne rendez-vous très très bientôt pour l'analyse du Friday Night SmackDown. D'ici là, on vous souhaite évidemment à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut, salut.
Salut à tous, prenez soin de vous.
Un trou est un drou.
Faut vraiment aller au fond du drou pour savoir ce qu'il en est vraiment.